Bonjour, chers bien-aimés, c'est le pasteur Lionel qui vous adresse ce message ce matin en espérant que vous allez tous bien. Le résumé du message ce matin sera sur l'évangile selon Jean, du chapitre 15, du verset 1er au verset 11. Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. Ce texte est extraordinaire. Ce texte nous présente Jésus comme étant le cep, nous les sarments et son Père le vigneron. Cette parole de Jésus s'inscrit dans son discours qui commence au début du chapitre 14 pour finir à la fin du chapitre 16. Ce discours parle essentiellement de la venue du Saint-Esprit et de sa mission dans l'Église et avec l'Église dans le monde. Nous sommes appelés à porter du fruit à la gloire du Père, comme cela est écrit au verset 8. Et le Saint-Esprit nous est envoyé pour que nous puissions, justement, atteindre ce but. Nous allons faire ressortir dans ce texte que Jésus est le vrai cep, comme cela est écrit au verset 1er et 5. Que son Père est le vigneron et que nous sommes les sarments. Il est important aussi de noter que Jean utilise souvent le verbe « demeurer », que nous retrouvons aussi dans sa première épître. Ce verbe évoque la communion avec le Seigneur. Tout d'abord, nous allons parler de Jésus comme étant le vrai cep. C'est ce que Jésus dit au verset 1er, « Je suis le vrai cep ». Et au verset 5, il le rappelle, « Je suis le cep ». Jésus se présente en disant « Je suis le vrai cep ». Cette expression « Je suis » se retrouve plusieurs fois dans cet évangile. Par exemple, Jésus se présentant comme étant la lumière du monde. « Je suis la lumière du monde. »«
Je suis le pain de vie. »«
Je suis la résurrection et la vie. »« Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Cette expression se retrouve donc à plusieurs reprises dans cet évangile. Jésus est le vrai cep. C'est lui qui est à l'origine de toutes choses. Il est celui qui est la vie, et qui non seulement il est la vie, mais il la communique, il nous la transmet. Il nous transmet sa force et sa vitalité. Les sarments ne sont rien sans lui et ne peuvent rien faire sans lui. Les sarments n'existent que parce que le cep existe. S'il n'y a pas de cep, il n'y a pas de sarment non plus. Jésus dira au verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Autre précision, Jésus non seulement dit « Je suis le cep », mais il rajoute « Je suis le vrai cep », car malheureusement, il y a de faux ceps. Il y a eu de faux Christ et il y en aura d'autres. Il y en a eu de faux qui veulent détourner le peuple de Dieu. L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens au sujet de ceux qui annoncent un autre Jésus. Et malheureusement, les Corinthiens se sont laissés séduire et Suivez ces faux Christ. Je lis ce verset dans 2 Corinthiens 11, verset 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Donc on voit dans quel piège les Corinthiens étaient tombés. Ils avaient entendu parler d'autres Jésus, de faux Christ, et malheureusement certains s'étaient laissés séduire. Nous voyons aussi une telle séduction chez les Galates, à tel point que l'apôtre Paul dira « Mais Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné ?» Ils s'étaient laissés aussi séduire pour passer un autre évangile. Jésus est le vrai cep. Puissions-nous rester attachés à Jésus qui est le vrai cep. Dans ce passage, Jésus présente son Père, Dieu le Père, comme étant le vigneron au verset 1er. Dieu le Père est le vigneron. Il est important de le souligner. Il est le propriétaire de sa vigne, c'est-à-dire de son peuple, de l'Église. Il a autorité sur elle. Étant le vigneron, il en a aussi la responsabilité. Il en prend soin, il lui prodigue tous les soins qu'elle a besoin, de l'arrosage, il entretient la terre autour d'elle, mais aussi il retranche et il émonde. Et tout cela afin que sa vigne porte beaucoup de fruits. En tant que vigneron, il a l'autorité et lui seul a cette autorité pour retrancher et émonder ses sarments. Lui seul a cette autorité et cela, quelque part, nous rassure de savoir que c'est Dieu seul qui peut le faire, qui peut faire cet acte de retrancher ou d'émonder. Si nous portons beaucoup de fruits, c'est lui qui en sera glorifié, comme cela nous est dit au verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. C'est lui qui en sera glorifié, de la même manière qu'on peut féliciter, qu'on peut glorifier un vigneron pour la qualité de sa vigne. On dit alors, il a bien travaillé, il en est glorifié ainsi. Parlons des sarments. Les sarments, sans aucune équivoque, ce sont nous. Jésus le dira au verset 5, « Vous êtes les sarments ». Les sarments viennent du cep. Ils ont pris naissance en lui. Ils sont sortis du cep. Et ce n'est pas l'inverse. Ils sont sortis du cep et ils sont là pour porter du fruit et porter beaucoup de fruits. S'ils ne portent pas de fruits, ils sont retranchés, comme cela nous est rappelé au verset 2. Comment se peut-il qu'un sarment qui est dans le cep ne porte pas de fruits? C'est une anomalie. Jésus dira, tout sarment qui est en moi, donc le sarment est en lui. Se peut-il qu'un chrétien qui est en Christ ne porte pas de fruits? C'est là une question. Car si quelqu'un est en Christ, il reçoit tout ce qu'il a besoin, tout ce qui est nécessaire pour sa croissance spirituelle et pour pouvoir porter du fruit. Si donc il ne porte pas de fruit, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le sarment, qui l'empêche de produire ce fruit. Et de plus, il puise de l'énergie inutilement. Et il pourra affaiblir les autres sarments qui, eux, portent du fruit. Il est donc retranché par le vigneron, et seul le vigneron, comme nous le disions tout à l'heure, a cette autorité pour le retrancher. Si les sarments portent du fruit, il y a une autre action qui s'opère. C'est celle de l'émondage. Il est émondé, selon que nous dit le Seigneur. C'est totalement différent d'être retranché. L'émondage consiste à tailler les extrémités du sarment ainsi que d'autres petites branches qu'il pourrait avoir qui puisent de l'énergie inutilement. Cet émondage va le fortifier. Il pourra encore plus porter encore plus de fruits. La différence qu'il y a avec le retranchement, c'est que dans le retranchement, le sarment est coupé dans sa totalité, et ce, au ras du cep. Il n'a donc plus la possibilité de repousser. C'est totalement différent de l'émondage. Cet émondage s'opère par l'action de la parole de Dieu en nous, ainsi bien sûr que du Saint-Esprit. Cet émondage est aussi fait par les différentes épreuves que nous pouvons avoir, subir dans la vie. Au travers de ces épreuves, Dieu nous apprend des choses, Dieu nous montre le chemin à suivre, Dieu nous montre ce que l'on doit abandonner dans sa vie. Nous sommes ainsi émondés. J'aimerais m'attarder un petit peu maintenant sur un verbe qui revient à plusieurs reprises comme une sorte de répétition dans ce texte. C'est le verbe « demeurer ». Ce verbe est très cher pour l'apôtre Jean. D'ailleurs, nous lisons dans sa première épître que ce verbe revient maintes fois. Ce verbe évoque notre communion et notre attachement avec le Seigneur, celui qui demeure en moi. Il n'est pas seulement question de demeurer en Jésus, mais aussi que lui demeure en nous. Et pour reprendre une expression malheureusement bien courante de ces jours-ci, nous sommes confinés en Jésus et Jésus est confiné en nous. Versets 4 et 5, il est dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Au verset 5, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits ». Ces deux versets, versets 4 et 5, nous montrent cette réciprocité dans notre communion avec le Seigneur. Nous demeurons en lui, mais lui demeure en nous. C'est ainsi que nous portons du fruit. Dans son épître aux Galates, au chapitre 2, verset 20, l'apôtre Paul nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il dira ceci, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » C'est Christ qui vit en moi. Si nous demeurons en Christ et que Christ demeure en nous, Christ vit en nous. Ainsi, nous avons la vie de Christ en nous et nous ne pouvons que porter du fruit. J'allais dire que la vie de Jésus transpire, elle émane de nous, elle transpire de nous. Le verbe demeurer évoque aussi une idée de continuité. Ce n'est pas simplement pour un laps de temps que cette communion est vécue. Mais elle doit durer dans le temps. Elle doit durer toute notre vie ici-bas. C'est ainsi que cette communion s'opère. La parole du Seigneur doit aussi demeurer en nous. Non seulement Jean nous dit de demeurer en Christ et que Christ demeure en nous, mais il dira aussi au verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, puissions-nous garder précieusement les paroles du Seigneur dans notre cœur. » Nous pensons à cette parabole du semeur et du terrain et nous savons que lorsque la semence tombe dans le chemin ou dans un endroit où elle ne peut pas pénétrer, les oiseaux du ciel viennent dérober la semence pour la manger. Et ainsi, lorsque la parole ne pénètre pas notre cœur, elle est enlevée de notre cœur. Que la parole du Seigneur demeure en nous. Nous voulons non seulement écouter la parole du Seigneur, mais nous voulons la mettre en pratique. Il nous dit aussi au verset 9, et c'est répété au verset 10, de demeurer dans son amour, demeurer en Christ, demeurer dans sa parole, Et troisièmement, demeurez dans son amour. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Verset 10, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Demeurez dans son amour. Il dira de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Nous verrons une prochaine fois ce que sont ces commandements. Et son commandement, c'est de nous aimer les uns les autres comme lui-même a pu nous aimer. Demeurer dans l'amour du Seigneur. Cela me fait penser à l'église d'Éphèse, que le Seigneur lui fera ce reproche et cet avertissement. Tu as abandonné ton premier amour. Et il l'invite à se repentir. C'est un avertissement au Seigneur. Nous voulons demeurer dans l'amour du Seigneur. Rien ni personne ne pourra nous ravir de la main du Seigneur. Il nous aime. Et nous voulons nous aussi l'aimer. C'est ainsi aussi que le fruit pourra se développer en nous. Nous sommes appelés à porter du fruit. Cela est dit dans ce passage. Nous pensons bien sûr à cette étude que nous avons faite sur le fruit de l'esprit. Nous sommes appelés à porter du fruit, et je dirais même mieux, à porter beaucoup de fruits à la gloire de Dieu. Ces fruits sont bien sûr le fruit de l'esprit que nous avons vu. C'est aussi la sainteté, elle nous est présentée comme un fruit, la pureté, et aussi les âmes qui sont gagnées au Seigneur. Quoi de plus formidable que de voir une âme sauvée, une âme gagnée à Christ, une âme passée des ténèbres à son admirable lumière, une âme qui est pardonnée, restaurée, guérie dans son cœur. Quel fruit extraordinaire! Nos œuvres aussi peuvent être des fruits quand elles sont faites en Christ. Je ne parle pas, bien sûr, vous l'avez bien compris, des œuvres de la chair, mais des œuvres quand elles sont faites en Christ, dans sa volonté. Ce passage est extraordinaire et nous invite vraiment à une profonde et une pieuse communion avec le Seigneur. Aussi, en guise de conclusion, j'aimerais juste terminer par une simple prière. Seigneur, nous désirons demeurer en toi, mais aussi que toi, tu demeures en nous, afin que nous portions du fruit et que nous en portions de plus en plus. Que le Saint-Esprit fasse en nous son œuvre et nous débarrasse de tout ce qui nous encombre dans notre vie spirituelle, de tout ce qui nous empêche de croître spirituellement, de tout ce qui empêche le fruit d'abonder en nous, afin que tu puisses resplendir dans nos cœurs, à la gloire de Dieu le Père. Oui, merci pour ton œuvre que tu fais, toi le divin potier en nous. Merci pour la force que tu nous communiques chaque jour, et à toi seul soit toute la gloire, Jésus. Amen. Je vous dis à très bientôt pour un autre partage. Que Dieu vous bénisse d'ici là. Amen.